Cette semaine, à Québécois, un Québec sans péréquation et le gouvernement Trudeau qui bannit des mots. Bonjour tout le monde et bienvenue à épisode 24 de Québécois. Bonjour Charles.
Salut Gabriel.
Encore une fois, on a sauté une semaine, on s'excuse. La vie des fois, ça peut pas faire autre, mais c'est pas grave, on est là. Charles, cette semaine, il y a eu toutes sortes de choses dans les journaux et puis tout récemment, on a entendu des phrases qu'on n'entend pas souvent, je te dirais, dans les nouvelles. Un Québec, pas de péréquation.
Ça serait dur à croire, hein,
ça serait-tu quelque chose si que le Canada se débarrassait de ça, là? Mais ça, c'est un autre sujet, mais ça nous vient de la CAQ, si je ne me trompe pas.
Donc, c'était pas la première fois que François Legault faisait allusion à un Québec sans péréquation, mais là, ça commence, au fond, à se matérialiser tranquillement pas vite en promesses de campagne, et puis, évidemment, ça soulève l'ire des autres partis qui, eux, misent beaucoup sur la péréquation pour balancer le budget du Québec. On rappelle que la péréquation, c'est à peu près 10 % des revenus de l'État. Donc, c'est pas négligeable. Ça correspond à peu près à ce qu'on met en éducation à chaque année. Mm-hmm. Et puis, juste un petit résumé là, pour la péréquation. La péréquation, là, c'est un des nombreux programmes de transferts fédéraux. Hein. Il y a plusieurs robinets là, dans lesquels les provinces peuvent envoyer puis recevoir de l'argent là, pour rééquilibrer leurs finances. Puis la péréquation, c'est un de ceux-là. La péréquation a été lancée en 1957 dans le but, au fond, d'honorer un engagement de la Constitution de permettre à toutes les provinces d'offrir des services de qualité similaires afin qu'il n'y ait pas trop de disparités entre les deux provinces. Fait que le but, c'est que tout le monde cotise un certain pourcentage dans le pot, puis ensuite, le montant est redistribué aux provinces les plus pauvres. Et sans surprise, le Québec reçoit de la péréquation sans interruption depuis 1957.
Moi, celle-là, je l'ai entendue souvent, là, cette histoire-là, que non, c'est pas vrai, on en donne plus qu'on en reçoit.
Non.
Puis ça, ces gens-là, je suppose qu'ils prennent leurs chiffres, là, parce que c'est...
Pas dans le budget, en tout cas.
C'est très simple d'aller voir dans le budget, puis c'est clair que ça n'a jamais été le cas. Là. Jamais. Pas une fois.
Oui, puis maintenant, la péréquation s'est même enchâssée dans la Constitution avec, au fond, la loi constitutionnelle de 1982. Le Québec, il l'a pas signé, mais on y est quand même assujetti, puis on est très heureux de recevoir de la péréquation, n'en déplaise aux souverainistes. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on ferait sans ça, honnêtement, pour balancer le budget. En fait, on ferait comme la Saskatchewan.
Ben, je sais, moi, qu'est-ce qu'on ferait pour balancer le budget, on arrêterait de gaspiller des niaiseries.
C'est déjà un bon début.
On aurait peut-être, nos finances seraient peut-être plus en ordre qu'elles le sont maintenant.
C'est un petit peu ça le point. C'est que, mettons, on regarde, là, bon, je disais que le Québec était bénéficiaire net, hein, c'est-à-dire qu'on reçoit plus qu'on donne depuis la création du programme en 1957, au même titre là, que le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, toutes les provinces maritimes, là, on reçoit de la péréquation. En fait, ce programme-là, c'était quasiment pour permettre à l'Ontario et à l'Alberta donner de l'argent au Québec et aux provinces maritimes. C'était pas mal ça, la règle d'or. La Colombie-Britannique, le Manitoba, le Saskatchewan, ils étaient un petit peu de façon intermittente là-dessus. L'Ontario est en difficulté depuis 2007, ils ont commencé à en recevoir. L'Alberta en recevait de 57 à 64, puis après ça, ils ont commencé à exploiter leurs ressources naturelles. Et, non, c'est eux autres la locomotive économique du Canada.
Mais l'année passée, ils nous en ont pas reçu. Il me semble que ça a inversé là, l'année passée. Il me semble que j'avais entendu quelque chose.
Ouais, ben, l'Alberta vit des difficultés, puis j'ai quelques chiffres là-dessus pour essayer de voir comment ça se passe un lendemain de veille de gros party. c'est à peu près ce qui est arrivé, puis je pense que c'est la meilleure métaphore possible. Il y avait vraiment un gros party en Alberta. Puis tu sais, on dit souvent que le Québec dépense beaucoup. Hein, puis... Je suis le premier à le dire. Mais quand on met ça en perspective, des fois, on a des surprises. Mettons, si on regarde là, entre 1982 puis 2012, on regarde là, sur 30 ans, les dépenses du gouvernement en pourcentage du PIB, donc en pourcentage de ce qui est généré en termes d'activité économique, Le Québec était entre 20 et 25 %, ce qui est énorme. C'est vraiment beaucoup. L'Alberta était autour de entre 10 et 15 %. Bon, il y a eu un passage là, dans les années 90 où ils étaient, eux autres aussi, à 20-25. Mais pour l'essentiel, l'Alberta, en pourcentage du PIB, dépensait peu. Mais le problème, c'est que l'Alberta avait beaucoup d'argent, donc ça vient un peu biaiser les chiffres. Quand on regarde les dépenses en dollars par habitant, alors là, l'Alberta nous torche. Il dépensait une quantité folle. On se donne une idée, là, dans les années 2000, du temps de Jean Charest, je suis prêt. En Alberta, le gouvernement dépensait autour de 10-11 000 $ par habitant, alors qu'au Québec, on était autour de 9 000.
Quand tu parles de dépenses, tu veux dire du budget général.
Oui, c'est ça, du budget. Okay. Parce qu'avant ça, on était en dépense en pourcentage du PIB, mais quand un pays, quand une province est très riche, ça vient biaiser les résultats en sa faveur. Alors, quand on ramène ça en dollars par habitant, alors là, on réalise que l'Alberta, sous le couvert de ses apparences de province frugale, dépensait une quantité assez importante de cash, mais ça paraissait pas parce qu'il y avait beaucoup de rentrées d'argent. Toujours est-il que quand on ramène ça en dollars par habitant, ben là, on voit que l'Alberta dépense plus que le Québec. Alors là, quand il y a eu des difficultés avec le pétrole, hein, on a vu qu'il y avait une guerre de prix avec les États-Unis, le Venezuela, l'Iran, la Russie dans les 10 dernières années. Les prix ont beaucoup baissé et l'Alberta, à peu près 25 % de son PIB relevait du secteur de l'énergie. Évidemment, là, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus tenir ce rythme-là et donc la débarque a été assez fulgurante. L'Alberta est en importante difficulté et comme s'ils voulaient se rendre la tâche plus difficile, ils ont élu le NPD. C'est quand même intéressant que François Legault dise « Hey, peut-être qu'on pourrait avoir un peu de fierté nous aussi » et faire comme la Saskatchewan. Saskatchewan, qui on le rappelle, recevaient de la péréquation à hauteur d'à peu près 10 % de leur budget, puis ils ont décidé de dire « ben c'est assez, là ». Fait qu'ils ont fait de l'austérité. Et pas comme au Québec. Au Québec, c'était pas vraiment de l'austérité. Hein, quand on dit austérité au Québec, on comprenait réduire la croissance des dépenses de 2,4 % à 1,9 %. Il y a vraiment pas de quoi fouetter un chat, là. Alors qu'en Saskatchewan, t'as là moins 3 % sur ton budget. Pendant plusieurs années. Et ça a fait en sorte que la Saskatchewan, dans quelques années, a pu commencer à ne plus recevoir de péréquation parce qu'il faisait plus de cash. Quand le gouvernement s'endette moins, on a déjà parlé, ça libère de l'argent sur le marché des fonds prêtables, ça stimule l'investissement. Parallèlement à ça, le gouvernement de la Saskatchewan a baissé l'impôt des entreprises, qui a attiré évidemment les entreprises là-bas. Et il y a un bon petit boom économique, si bien que la Saskatchewan, en ce moment, malgré ce qu'on peut s'attendre, on se dit « bon, qu'est-ce qu'il y a en Saskatchewan? » Mais non, il y a une belle croissance économique. On regarde le PIB là, de 2006 à 2011, croissance de 60 %.
En 5 ans.
Saskatchewan, oui.
J'avais vu dans les statistiques que la Saskatchewan était un des pays qui ne recevait pas. Puis ça m'avait surpris. On pense pas à la Saskatchewan comme étant une des provinces qui pourrait avoir une économie solide. On le voit pas comme ça. On se dit il y a des prairies, puis du blé, puis that's it.
Ben, c'est un peu en Saskatchewan que ça a commencé. Puis, si on remonte, mettons, aux années 90, le Canada avait un problème dans l'ensemble d'endettement. C'est-à-dire, vraiment, les années Trudeau, puis Mulroney qui a fini à job, là, le Canada avait accumulé une dette gigantesque. On a failli être décoté, en fait. On était sur le bord du gouffre financier au Canada. Ce qui fait qu'au budget 96-97, à l'époque, c'était le premier ministre Chrétien, son ministre des Finances, c'était Paul Martin. Ils ont dû couper aussi. Puis pas juste, mettons, au Québec, on dit réduire la croissance. Alberta, je disais moins 3. Bien, le budget fédéral, moins 11 % sur ton budget. Ça le fait mal. Mais au final, ça a fonctionné parce qu'il y a eu une belle reprise économique ensuite. Mais la Saskatchewan, en 93, 10 % de leur budget venait de la péréquation, comme le Québec en ce moment.
C'est quand même beaucoup, 10 % d'un budget.
C'est énorme. C'est ce qu'on met en éducation.
C'est incroyable.
C'est comme si le reste du Canada subventionnait nos programmes d'éducation.
Ça représente quoi en termes de dollars pour le Québec?
Oh, le Québec reçoit à peu près 11 milliards par année en péréquation.
11 milliards?
Ouais.
Ouf.
Ça, c'est juste pour ce programme-là. Je parlais qu'il y en avait plusieurs programmes
Ouais, c'est ça.
de transfert
Ben,
interprovinciaux,
toutes
là.
les fois qu'on fait un petit projet, là, on va chercher du cash au fédéral. Là. Ça aussi, là, ça compte.
Ben oui, ça, puis ça d'ailleurs, c'était quand même drôle parce que je suis tellement contradictoire de voir soit le Bloc ou encore le PQ réclamer
Mais
davantage
oui.
d'argent.
Mais on le voit en ce moment, là, avec toutes les annonces là, de projets de transport en commun, ils ont tous le même discours. C'est faut aller chercher du cash à Ottawa. Puis c'est là qu'il y a comme une espèce de dissonance cognitive. Là. Mais si tu le veux, ton pays ou pas, là, en tout cas, regarde.
Quand j'ai voulu quitter chez mes parents, j'ai pas appelé à tous les fins de semaine pour avoir de
Ben
l'argent de
oui!
poche.
Ben oui!
Mais tabarouette, la Saskatchewan a réussi. Fait que moi, je me dis, François Legault, il fait le calcul de dire qu'il y a un nombre significatif
Ouais.
de personnes pour qui ça compte au Québec. Alors, je vais me promettre ça, ou du moins, je vais mettre en place cette orientation stratégique-là qu'à long terme, le Québec va essayer
Ouais.
de booster son économie. Bon, il n'a pas voulu se mouiller à savoir comment il allait le faire.
Moi, par exemple, là, je serais prêt à faire une petite hypothèse là-dessus. Là. Imagine, okay, tu as François Legault qui rentre en majorité à cet automne, puis là, qui commence son projet pour avoir le Québec sans péréquation. Puis là, qu'est-ce qu'il va avoir besoin de faire? Ben, il va avoir besoin de faire des coupures, là. Tu sais,
Ah
quick,
oui, c'est
là.
sûr.
Puis fait que ça, là, puis là, ça va pas être des petites coupures, là,
Non, non, non.
de nounou, là, comme le gouvernement de Couillard a fait. Ça va être des vraies coupures, de la vraie austérité. Mais ça marchera pas, là. Il fera un mandat, puis il se fera retourner chez lui après 4 ans. Les Québécois, j'ai pas l'impression que c'est des gens qui on veut pas serrer la ceinture, on veut pas, on l'a vu là, juste pour essayer de mettre la dette sous contrôle, le monde a viré fou. T'imagines avec une vraie austérité, moi là, tu sais, il peut bien dire j'aimerais ça un Québec pas de péréquation, mais est-ce que les Québécois sont prêts à faire les sacrifices qu'il faut? Moi, je suis pas certain. Je suis vraiment pas certain.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de voir ça. On peut y aller effectivement par une réduction des dépenses. Puis là, je pense qu'il y aurait effectivement beaucoup de coupes à faire. Mettons, on regarde, là, ne serait-ce qu'en éducation, les coûts ont explosé, le service de garderie, ça a explosé. Est-ce que les enfants ont des meilleurs services aujourd'hui? Je ne suis pas certain. La semaine dernière, on parlait des médecins qui ne sont pas en compétition les uns envers les autres, mais bien unis contre nous. Donc, c'est sûr que ça maintient les prix artificiellement élevés. L'absence de compétitivité dans l'économie fait en sorte que tout nous coûte plus cher pour rien. Et le gouvernement prend juste trop de place. Tantôt, je mentionnais autour de 20-25 %, mais quand on prend l'ensemble du budget, là, c'est autour de 30 % du PIB, c'est beaucoup trop. Ça fait en sorte que ça nuit à la compétitivité de la province et ça limite les opportunités qu'on peut mettre en place. Et ça, je pense qu'il y aura un premier axe à mettre en place avec une réduction des dépenses, parce que clairement, le Québec vit au-dessus de ses moyens, parce qu'il y a le crochet des autres provinces qui viennent le baquer. Mais il y a aussi le fait de dire, ben, tabarouette, les ressources énergétiques au Québec, on en a. Moi, je serais d'accord pour qu'on les exploite. Puis je pense qu'il y a quand même un bon nombre de population qui est sensible à ce discours-là. Ça va être un enjeu électoral fort intéressant à suivre.
C'est que les ressources, quoi, t'as dit, les ressources
Les ressources énergétiques, notamment
énergétiques.
pétrole et compagnie, là. Mais en fond, c'est ça, c'est que le Québec, on essaie de mettre en place différents leviers pour favoriser la croissance économique. Parce que le but en économie, là, c'est d'avoir, on a le choix. On peut avoir une très grosse portion d'une petite tarte, comme c'est présentement le cas, ou bien une petite portion d'une bien grosse tarte. Et ça, c'est ce qu'on veut avoir, c'est-à-dire un petit gouvernement, mais qui est capable de générer tellement de richesses par le simple fait que il y a de l'activité économique à l'extérieur de son giron d'activité. Et ça, à Montréal, on a commencé à avoir le petit boom dans les dernières années, surtout en nouvelles technologies. Au Québec aussi, ça se passe assez bien. Les revenus du gouvernement sont en croissance, alors qu'il n'y a pas vraiment d'augmentation de taux de taxation ou peu importe. C'est juste le fait que les gens gagnent plus, ça fait augmenter les revenus de l'État de façon incrémentale. Donc, au final, les finances du Québec se portent bien et Philippe Couillard a quand même un bon bilan à mettre devant lui. Reste à savoir si les médias vont de un lui
Ils vont
faire une bonne
jamais le dire.
presse.
Ils vont jamais le dire. T'sais, moi j'aimerais ça, moi, que l'élection du mois de septembre ou octobre, pardon, là, ou whenever que ça va avoir lieu, J'aimerais ça que, tu sais, s'il se fait battre, ben qu'il se fasse battre pour les bonnes raisons. Puis que celui-là qui se fait élire, ben qu'il se fasse élire pour les bonnes raisons. Pas parce que les médias ont ramassé des demi-vérités puis racontent un peu n'importe quoi partout, là. Parce que si on se pose la question, est-ce que le Québec va mieux aujourd'hui que 4 ans passés, économiquement parlant, on n'a pas le choix de dire oui.
Si on regarde vraiment le Québec, mais en dépit de notre population importante, en dépit de la disponibilité des ressources naturelles, en dépit des infrastructures déjà établies, on est une province qui sous-performe depuis des décennies, là. Si on va remonter, j'essaie de remonter la dernière fois que le Québec était dans le top 4 du PIB par habitant, puis c'était en 1976.
Ouais. Ça fait,
Ah,
c'est,
on est beaucoup de.
on est dû, là. Ça fait passer 40
Ben,
ans,
on est dû. Un petit peu comme le Canadien est dû pour gagner la Coupe là, depuis le temps.
là.
Ben, hein, tabarouette, le Québec, il me semble qu'on serait dû pour reprendre notre rôle de locomotive économique du Canada, comme on l'a eu pendant de nombreuses années. Et personnellement, l'automne prochain, je vais être très sensible à savoir qui va avoir la meilleure stratégie économique. Et pour moi, une bonne stratégie économique, c'est celle où le gouvernement en fait le minimum et laisse plutôt les gens libres de déployer toute leur créativité pour trouver des solutions novatrices à des problèmes complexes.
On a fait le tour du Québec. Je pense que maintenant, on peut parler de peut-être, je dirais, le sujet chaud des dernières semaines ou surtout de la semaine dernière. Le gouvernement qui encore fait des annonces sur des pronoms, puis des noms, puis les genres, puis des pas de genre. Puis là, tout le monde capote. Moi, là, cette semaine, sur mon Facebook, j'étais vraiment ému, en fait. Ben, ému ou surpris ou bouche bée ou je sais pas trop. La quantité de personnes qui ont affiché toutes sortes de niaiseries là, à propos de toute la controverse entourant les prénoms, pronoms plutôt utilisés par le gouvernement dans un futur prochain. Disant que on demande aux employés d'adresser les gens de façon à pas les genrer si on ne sait pas si c'est un monsieur ou une madame. De là, il est parti. J'ai vu des articles circuler, OK. Puis là encore, c'est des sites de satire, par exemple, OK. J'en ai vu un là que l'entête c'était ou le titre c'était le gouvernement Trudeau bannit les mots papa et maman. Puis les gens réagissaient là, ils étaient fâchés. Vraiment du vitriol là, comme que t'en vois. Pas rarement, mais comme qu'on peut voir sur Facebook quand les gens sont un peu énervés. Puis là, j'étais comme, OK, on va aller voir. Là, j'ouvre l'article, je regarde. Puis là, je réalise, c'est un site de satire. Puis là, je ne savais pas si je devais être fâché envers les gens qui n'ont pas été plus loin que le titre ou envers au fait qu'on a un gouvernement qui fait des conneries à tel point qu'on peut avoir un titre comme ça, puis que d'office, les gens pensent que c'est vrai.
Effectivement, ça en dit long sur l'état de notre politique au Canada, là. Je trouve que ça fait assez dur, là.
Moi, je vais dire, je suis un peu découragé parce que les 2 premières années du premier ministre Trudeau étaient quand même, il y avait un bilan plus positif que négatif, je dirais, qu'en général, ça se passait bien. Mais là, il y a un dérapage dans les derniers 6 mois, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas s'il y avait eu comme trop de confiance ou qui était devenu un petit peu cocky là puis qui pensait qu'il pouvait tout faire ou tu sais puis en quelque part ça rappelle un peu son père là qui était un peu comme ça aussi qui ça m'écœure de faire le lien entre le père et le fils mais on voit de plus en plus le père dans le fils ça me décourage parce que c'était vraiment bien parti puis là mettons de côté tout ça là, pour se concentrer sur le fait de genrer ou non les gens qui sont. Puis là, j'ai été voir. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont sorties par rapport à ça, qu'on allait interdire les genres, puis qu'on n'allait pas laisser les gens au gouvernement s'exprimer de sorte à appeler les gens monsieur ou madame. Puis. Personnellement, là, je trouve qu'on va un peu trop loin, là, dans le gouvernement d'essayer de contrôler les gens à ce point-là. Je vois pas en quoi ça peut être utile, là, de faire des règlements aussi stricts que ça. Mais de façon usuelle, je suis convaincu que ça se passera pas de même, là. C'est pas vrai, là, que tous les gens qui dealent avec le public, c'est un monsieur qui te présente devant toi que tu vas lui demander « Est-ce que tu veux que je t'appelle monsieur ou madame? » C'est pas vrai, là. Ça, dans les faits, là, ça ne sera pas ça. Fait que je pense que les gens réagissent un peu sévèrement, là, parce que moi, j'y crois pas, là. Je suis peut-être un petit peu naïf, là, tu me diras, mais moi, je pense pas que ça va se passer comme ça.
C'est que quand même, il y a quand même un précédent. Je pense que beaucoup de gens sont plus à l'affût qu'ils ne l'étaient auparavant de ce genre d'enjeu-là. Et ça a commencé avec le projet de loi C-16. Ça s'est poursuivi avec d'autres projets de loi là, de cette nature-là. Et il y a comme une volonté de reconfigurer le langage et l'expérience humaine d'interaction. Parce que là, c'est comme si, moi, j'ai un peu de misère à les suivre, parce que dans la commission sénatoriale là, du projet C-16, on définissait le genre et le sexe comme étant deux variables qui varient indépendamment l'un de l'autre. Donc, si c'est deux choses différentes, je comprends pas pourquoi est-ce que qualifier les gens de monsieur ou madame, en référence par exemple à leur sexe, poserait problème relativement au genre. J'ai de la misère à comprendre la logique interne de leur démarche. Parce
Ben,
qu'eux-mêmes disent que c'est.
ils se comprennent pas eux-mêmes, on s'entend,
Ben c'est
là.
ça, c'est que j'ai l'impression qu'ils s'enfergent dans les fleurs du tapis en voulant être vertueux, puis ouverts, puis
Ouais, c'est ça.
promouvoir la diversité, mais au final, font juste créer
Et
une
d'autres
politique
problèmes.
divisive
Ouais.
sur laquelle, au fond, on s'en fout.
Moi, ce que je trouve que ça va faire, c'est que ça va avoir l'effet contraire. Okay? On s'entend ici, là, que le but, c'est que les gens qui sont le plus affectés par ce genre de politique là, on veut les accommoder, on veut leur donner un sentiment d'appartenance puis de non-discrimination. Puis cette intention-là, elle est quand même bonne. Moi, je considère qu'il n'y a pas de mal à appeler les gens de la façon qu'ils veulent se faire appeler. Mais d'un côté pratique, la méthode qu'ils utilisent pour essayer de faire ça n'a pas de sens, là. C'est des ressources incroyables qu'on gaspille pour faire ce genre de changement-là. Tandis que tout ce qu'on aurait eu besoin, en fait, là, c'est un petit peu une politique plus généralisée au niveau avec les travailleurs qui face au public du gouvernement du Canada, où tu dis, ben là, à partir d'aujourd'hui, t'sais, appeler les gens comment ils veulent se faire appeler. Aussi simple que ça! Aussi simple que ça! Pourquoi on a besoin de gaspiller autant de temps et d'argent là-dessus, là? Fouillez-moi, là, je le sais pas.
Ça, c'est que c'est quelque chose qui est censé être négocié socialement à chaque interaction.
Mais
Et,
oui.
tu sais, mettons, tu parles à quelqu'un, puis il veut que tu l'appelles par son surnom, ou bien tu l'appelles Bob, puis il n'aime pas ça, puis
Ben
t'arrêtes de l'appeler
oui.
Bob. Puis c'est négocié à chaque fois. Mais là, c'est qu'on arrive avec, possiblement, notamment avec ces 16, avec des sanctions de nature criminelle et pénale.
Ouais.
Et toi, tu sais que tu n'y vois pas nécessairement un précédent si dangereux que ça, mais. Moi, je vois quand même une dérive là, qui m'inquiète. Parce que quand
Bof.
on cherche à changer le sens des mots, ben, je sais pas, il me semble qu'il y a d'autres gouvernements qui ont fait ça par le passé et qui n'avaient pas des très
Moi,
bonnes intentions.
je pense pas qu'ils essaient de changer le sens des mots. Je pense qu'ils essayent, comme j'ai dit, de se moderniser dans leur pratique, mais qu'ils savent pas comment le faire. Moi, je pense ce qui va arriver, là, c'est que quelqu'un, quelque part, va se fâcher, puis quelqu'un, quelque part, va aller chercher un avocat, ça va aboutir devant les tribunaux, puis ça va être renversé de nouveau. Là. Parce que je peux pas croire, là, que cette affaire-là, ça va faire long feu. Ça a juste pas de sens. Puis c'est comme tu as dit, moi, l'exemple parfait, là, moi, j'aime pas ça quand les gens m'appellent Gabi. Au bureau, tout le monde m'appelle Gabriel, sans exception. Parce que c'est, comme tu as dit, c'est une interaction que je négocie, ou plutôt c'est un fait que je négocie avec chaque interaction. Les gens, quand ils me rencontrent, je me présente comme Gabriel, puis dès la première fois qu'ils m'appellent Gabi, je dis non, 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 c'est Gabriel. Puis c'est pas, il n'y a personne qui se fâche, il n'y a personne qui pète les nerfs, mais ça, je ne vois pas en quoi c'est différent. L'exemple parfait.
T'es
Pardon?
en train de me dire que ça te vexe quand je t'appelle Gab?
Non, j'ai pas dit Gab, j'ai dit Gabi.
Gabi,
Ouais,
ok, je
non,
comprends.
Gabi, ça m'énerve,
Gab, ça va.
ça me fait penser au cartoon qu'il y avait un temps, là. Gabi, 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 petit. Ça me faisait, en tout cas. Puis, il y a tellement de chiens qui s'appellent Gabi aussi, là. Ça, c'est une autre histoire. Fait que, puis l'an dernier, on a eu quelqu'un dans notre groupe qui a transitionné de homme à femme. Puis, tu sais, moi, je travaille dans un milieu là, qui est principalement masculin, là. Il y a beaucoup de gars dans mon domaine de travail. C'est juste comme ça. Puis, c'est pas parce que j'essaye pas d'embaucher des femmes, là. J'aimerais tout ça, mais ils appliquent pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Puis, quand cette personne-là a transitionné de homme à femme, écoute, ça s'est fait. Il est parti le vendredi. Le dimanche, le gars il est parti. Le vendredi, le gars il est parti au travail de chez lui. Puis le lundi, il est arrivé. C'était une madame. Puis on a réglé le cas, là. Ça n'a même pas pris une journée. T'sais, comment tu veux te faire appeler? C'est quoi les prénoms que tu préfères? La conversation n'a même pas duré 5 minutes. Puis il n'y en a pas eu de problème. Pas un. Pas un durant tout l'emploi de cette personne-là. OK? Fait que. Moi, je pense là, que la plupart des gens, dans la plupart de leurs interactions avec d'autres gens, ne veulent pas s'emmerder dans des conflits ou offusquer les autres. Règle générale, là, on n'est pas tous des trous de cul. Okay? Puis, oui, de temps en temps, il y a du monde qui vont faire des conneries. Là, mais ça, ce monde-là, là, ils vont en faire no matter what. Okay? On peut leur donner tout ce qu'on veut. Là, ils vont trouver une façon de faire chier le peuple. Fait que t'aies des pronoms que t'en aies pas, là, ça change rien. Parce que les gens qui ont le moindrement le souci du bien-être des autres vont quand même faire les choses comme il faut.
Non, mais ça, c'est sûr qu'il y a, mettons, si on parle spécifiquement du cas des pronoms à Service Canada, je pense que c'est une mesure qui ferait pas long feu dans une élection, hein, si
Ah,
c'était
excellent.
sur une plateforme de campagne, là.
Moi,
Je pense que les gens trouveraient ça insignifiant.
Je serais prêt à parier là, qu'il va avoir besoin de se défendre sur ça plus qu'autre chose aux prochaines élections.
Ah, son bilan va être difficile à défendre, là. Je sais pas
Ben
comment il va
oui,
faire.
parce que le monde va sticker sur ces affaires-là. Le monde, ils l'ont oublié déjà, là, les 10 millions aux mancadeurs. Écoute, tout ça remplacé par des pronoms. C'est incroyable, incroyable. Mais on est pire que des poissons dans un bocal.
Tout ça, là, ça s'inscrit dans une plus grosse mouvance où on s'attend du gouvernement qu'il change les choses. C'est comme si on était passif devant une situation qu'on juge inappropriée, et plutôt que des gens se disent, moi, je vais apporter un changement, moi, je vais prendre cette situation-là en main, ben, on attend que les autres le fassent.
Moi, je pense que c'était pas nécessaire. Je pense que les mœurs de notre société en ce moment sont en train de s'ajuster au fait des gens qui sont trans, puis les gens qui ont des genres de toutes sortes. Je pense pas que c'était nécessaire. On va s'ajuster. C'est pas.
Ben,
Plus proche à ça, là. Pense à quand il y a eu. Là, ça fait plus de 10 ans maintenant, là, qu'au Canada, les gays peuvent se, les personnes de même sexe peuvent se marier. Il n'y a pas eu de discussion autour de comment on les appelle. C'est-tu monsieur puis monsieur? C'est-tu époux puis époux? Personne ne s'est posé la question. Là. Ça n'a pas été légiféré. Puis là, on est 10 ans plus tard, puis tout le monde est correct. Okay? Mais c'est un peu le même débat.
oui, mais ça, tu vois, c'est quelque chose qui s'est pas mal négocié socialement de façon assez organique. Hein. Le gouvernement
Ouais.
n'était pas là à imposer des noms ou des pronoms. Il dit juste,
Ouais.
bon, ben parfait, on ouvre cette procédure-là à tout le monde, puis arrangez-vous.
Sur ce, mesdames et messieurs, on va vous remercier d'être là encore cette semaine. Ça nous fait toujours très plaisir de vous parler. Je vous rappelle toutes nos façons que vous pouvez participer au dialogue sur facebook.com/québécoisbalado. Il y a aussi notre site web, québécois.ca. Et si vraiment vous voulez nous faire plaisir, ben abonnez-vous sur iTunes, Stitcher, TuneIn, Google Play, partout, partout, partout. On est vraiment partout, on est comme Dieu. Et vous pouvez aussi nous laisser un message de vive voix sur notre boîte vocale au 1-888-458-4443. 1-888-458-4443. Si vous pouvez nous faire un petit like ou même faire un petit commentaire sur iTunes, vous savez, ça nous aide, donnez-nous des étoiles, ça va vraiment nous aider. On vous remercie de toujours être là à chaque semaine. Fait que bye bye tout le monde. À la semaine prochaine, ciao.
À la semaine prochaine.